I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut Patrick, comment ça va?
Salut Fab, ben écoute, ça va très bien. Merci pour ton invite.
Ben merci d'avoir accepté de venir de parler de ta recommandation culturelle dans cette mirifique émission. Toi qui es également mirifique, quoi, vraiment.
C'est ton adjectif du moment, j'ai l'impression, Fab.
Mais j'adore, enfin, je sais pas, moi, je te trouve tellement beau, voilà. C'est... Non, mais vraiment,
merci,
je te trouve beau, Patrick.
Je suis content d'avoir accepté cette invite.
Je te trouve beau. Donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais il faut sortir de votre caverne, Patrick Beau, tu es surtout connu pour cette fameuse chaîne qui s'appelle Axolot.
Oui.
Sur YouTube.
C'est ça, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée en 2013, ça fait 7 ans déjà, cette année, et c'est une chaîne qui succédait à un blog qui s'appelait déjà Axolot, sur lequel j'écrivais des articles sur les curiosités du monde au sens large, hein, scientifiques, historiques, etc. Et donc depuis, il s'est passé des tas de choses formidables, puisqu'il y a une série de bandes dessinées qui est sortie aussi, adaptée des vidéos. Il y a pas mal de bouquins aussi. Le dernier, c'est le livre des Étranges Escales, qui est sorti là en octobre. Et puis voilà, donc beaucoup de chance de pouvoir vivre aujourd'hui de ce partage de curiosités et d'étonnement. Ouais.
Ce partage de curiosité et d'étonnement. J'adore tellement, c'est tellement ta ligne édito.
C'est ça, c'est vraiment ça.
L'un des trucs qui m'a particulièrement marqué dans ton actualité très récente, Patrick, et on en a un peu discuté sur Instagram, c'est ce compte en fait que t'as créé là tout dernièrement, enfin en tout cas il y a quelques semaines d'après ce que tu me racontais. Et que t'as montré au monde entier là, qui s'appelle Adventist sur Instagram.
Ouais. en fait, mon premier métier, c'est graphiste. Donc voilà, bien avant de faire Axolot, j'étais graphiste professionnel. Et quand Axolot est devenu mon activité principale, j'ai mis de côté le graphisme pour l'écriture et pour le reste, c'est pour les vidéos. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Et je gardais ça dans un coin de ma tête. J'aimerais bien refaire du graphisme un jour pour le plaisir. Pas pour des clients, hein, du coup, faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et là, donc, ce deuxième confinement a été l'occasion de m'y remettre. Donc, du coup, j'ai ouvert effectivement un compte Instagram qui s'appelle Adventist, sans dire que c'était moi, parce que je voulais faire un truc à part, complètement distinct du reste de mes activités. Et j'ai commencé à poster des montages que je fais donc à partir d'images du domaine public que je trouve dans les archives en ligne des bibliothèques et des musées. Donc c'est une mine d'or de matières premières. Et à partir de là, je crée des chimères qui sont un peu dans l'esprit cabinet de curiosité, voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois. J'en ai créé 8. Et il y a 2 jours de ça, donc j'ai annoncé sur mes réseaux que c'était mon projet graphique que j'avais lancé sous pseudo. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient mis à suivre le compte sans savoir que c'était moi. Donc, du coup, c'était très marrant de voir les réactions. Et là, vraiment, je suis très, très heureux des retours, quoi, parce que j'étais pas attendu là-dessus du tout. Et ça plaît aux gens. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. J'ai été contacté par une galerie, notamment parisienne, qui est intéressée pour les afficher. Donc, c'est un grand honneur. Vraiment, j'avais pas imaginé ça du tout. Au début, c'était juste pour me faire plaisir. Donc voilà, ça va faire partie maintenant de mon activité également avec le reste.
C'est génial, hein. Je le montre un petit peu là. J'ai mis une, tu sais, je suis extrêmement professionnel. J'ai mis une fenêtre où je montre tes images et comme tu disais en fait, c'est que t'as vraiment été chercher, t'as été piocher tout ça dans des bibliothèques d'images complètement libres de droit, c'est ça?
Alors, j'ai fait une story là où j'expliquais le processus créatif derrière un des visuels qui s'appelle la courtisane. Ça a commencé déjà par des heures et des heures d'exploration des archives de la Wellcome Collection, qui est un musée anglais génial d'ailleurs, que je connaissais d'ailleurs en physique, on va dire, avant d'en explorer les archives. Et donc, à force d'errer comme ça à travers les milliers d'images de la Welcome Collection, je suis tombé sur une pub pour une marque de thé qui date de 1900, donc une pub qui a 120 ans, en fait, tout simplement. Et j'ai senti que il y avait la base d'un chouette personnage. Donc c'est une femme en robe traditionnelle chinoise avec une ombrelle, etc. Et je me suis dit que ça pourrait bien coller avec une tête d'oiseau un peu élégant, un peu majestueux. Et donc là, je suis allé sur les archives d'un autre musée. Donc c'est la Biodiversity Heritage Library, qui est donc une bibliothèque consacrée à la faune et à la flore. T'as des centaines de milliers d'images d'animaux, de fleurs, etc. en très haute définition, je précise. Et tout est public, tout est dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui peut prendre ces images, en faire ce qu'il en veut. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. Donc voilà, donc j'ai trouvé une illustration de serpentaire, un très bel oiseau comme ça, qui ressemble un peu à un paon. Et puis quand j'ai mélangé les deux, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc j'ai continué derrière, j'ai rajouté une pagode, j'ai rajouté une jonque, j'ai rajouté des tas de trucs, de la peinture, des taches d'encre. Et au final, voilà, ça donne ce personnage hybride comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté tarot aussi. À la fin, c'est comme si ces personnages prenaient un peu vie, quoi. On les imagine vivre diverses aventures comme ça. Donc j'aime beaucoup ça. Et ben, je vais continuer longtemps là, parce que vraiment, je m'amuse. Et en plus, apparemment, bah, ça plaît aux gens. Donc voilà, je vais continuer.
Alors, c'est magnifique. Pour les gens qui seraient en replay, parce que là, j'ai montré un petit peu les stories, parce que je trouve, on en avait parlé un petit peu, mais je trouve que l'un des trucs géniaux aussi, c'est de comprendre un petit peu ce que tu... Comment dire, ton processus
créatif.
Et de voir un petit peu... donc, cette story se trouve en highlight de tes... Enfin, story mise en avant sur ton compte Patrick Beau sur Insta.
C'est ça, elle est en une sur Instagram, elle est sur Twitter aussi. Je fais un thread Twitter avec toutes les étapes. Et ben, j'étais très content aussi de voir que c'était bien accueilli. Parce que sur Twitter, toujours un peu casse-gueule. Tu te dis, quoi que je dise, est-ce que je vais pas me faire insulter par des gens pour je ne sais quelle raison? Et en fait, non, vraiment pas. Donc, j'étais content. Voilà.
Ta commu est géniale, quoi, en gros.
Ah, ça, j'avoue qu'ils sont superbes.
Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, bravo, parce que vraiment, moi, ça m'a scotché. J'ai été très heureux de voir que tu avais décliné le processus comme ça, parce que c'est un peu un truc où je me suis dit, ok, est-ce qu'il a tout dessiné, d'où viennent les images, qu'est-ce que c'est, enfin tu vois, j'étais vraiment assez perdu quand j'ai vu le
fait, parce que tu m'as demandé. Ah bah... je me suis dit, ah, c'est une bonne idée de faire ça, et un plaisir de le faire. Bon, alors après, évidemment, c'est les grandes étapes, parce qu'en moyenne ça s'étale sur 2 jours, on va dire, la création d'une image là. Donc c'est vraiment les grandes étapes, mais l'idée est là, quoi.
c'est vraiment fabuleux, c'est trop bien. Et tu disais, en fait, oui, donc pour les gens que ça intéresse aussi, parce que vous pouvez, tu fais pas ta promo, Patrick, mais heureusement, je suis là pour le faire, mais tu peux commander, on peut commander ces visuels, c'est ça? T'as ouvert des boutiques?
Ben j'ai ouvert des comptes sur 3 boutiques en ligne, donc il y a une boutique Redbubble, une boutique Displate, et une boutique InPrint. C'est un peu comme Society 6, qui est un des plus connus dans ce registre-là. Et c'est super, parce que chacune de ces boutiques a des tas de produits très très différents. Et notamment sur Redbubble, c'est marrant, parce que je vois exactement ce que les gens ont commandé, quels objets, etc. Il y a des gens qui prennent des t-shirts, des mugs, des carnets à spirale, enfin des tas d'objets. J'avais pas du tout imaginé ça. Donc je pense que le jour où je vais croiser quelqu'un qui a un t-shirt avec un de mes visuels, ça va me faire quelque chose. D'ailleurs, ça je t'ai pas dit, mais j'ai reçu un message d'une personne qui veut se faire tatouer, qui m'a demandé l'autorisation, qui m'a dit, est-ce que j'ai le droit de me faire tatouer, donc c'est la courtisane, ou est-ce que je dois payer quelque chose? Je dis, bah, déjà, c'est un honneur, donc tout ce que je demande en contrepartie, c'est de voir le tatouage. Et voilà, donc ça, c'était pas prévu.
C'est que tu mettes « j'aime beaucoup Patrick Beau » aussi sur ta fesse gauche. Voilà,
la courtisane. Voilà, comme la base.
En tout cas, Patrick, merci beaucoup pour ces informations, c'est cool. Venons-en au fait, si tu veux bien. De quoi que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Cette phrase n'est pas du tout française, mais je crois que tu as compris l'idée.
Ouais, on l'a comprise. Alors, quand tu m'as dit qu'il fallait présenter une œuvre, je me suis dit, bon, je vais essayer de parler de quelque chose d'original. Et puis en fait, je me suis dit, mais non, moi j'ai envie de parler du Mandalorian. Alors que bon, évidemment, on n'entend parler que de ça tout le temps, de partout, mais je me suis dit, peut-être que je vais le présenter à ma manière. Et donc, le Mandalorian, qu'est-ce que c'est ? Je vais imaginer que les gens ne connaissent absolument pas, qu'ils n'ont pas entendu parler de Baby Yoda, etc.
Je n'ai entendu parler que de Baby Yoda, d'accord ? Et du fait que ce soit sur Disney+, ok ?
Bon, alors, le Mandalorian, c'est une série créée par Disney+, enfin, en tout cas diffusée sur Disney+, qui se déroule après les événements du retour du Jedi, chronologiquement, dans la chronologie Star Wars. Et donc, on suit les aventures d'un personnage qui s'appelle le Mandalorian. C'est un Mandalorien. Donc, les Mandaloriens, c'est un clan de guerriers dans l'univers Star Wars. Et ce Mandalorien-là, c'est un chasseur de primes qui erre de planète en planète à la recherche de missions. Et un jour, franchement, c'est pas du spoil, hein, puisque voilà, tout le monde a entendu parler de Baby Yoda, et puis ça arrive très très vite dans la série. Un jour, une de ses missions, c'est de rapporter quelque chose de très précieux à un officier de l'Empire, donc l'Empire de l'Empire contre-attaque. Et le truc précieux en question, c'est le fameux Baby Yoda qu'on a vu sur tous les réseaux sociaux. Baby Yoda qui n'est pas Yoda bébé, attention, hein, c'est juste. C'est un être de la même espèce que Yoda, mais en beaucoup plus jeune, puisqu'il a que 50 ans. Et dans l'espèce de Yoda, le métabolisme est beaucoup plus lent, donc c'est un bébé. Et donc, bah voilà, forcément, le héros s'aperçoit très vite que ce bébé a des pouvoirs assez surprenants, hein, puisqu'il déplace les objets par la pensée. Et à partir de là, donc, on suit les aventures de ce duo improbable, de ce chasseur de primes impitoyable et de ce bébé adorable. Donc là, j'en dirai pas plus, par contre. Mais ce que je trouve génial, moi, dans cette série, c'est que elle revient aux fondamentaux de Star Wars. Personnellement, j'ai jamais été un geek de Star Wars. J'aime bien Star Wars comme à peu près tout le monde. J'ai grandi avec, etc. J'ai jamais été un fan hardcore de Star Wars. Pour tout te dire, j'ai pas vu le tout dernier là, de la dernière trilogie. Donc je suis pas un fou furieux de Star Wars. Mais j'étais curieux là de voir ce qu'ils avaient pu faire avec cette série. Et honnêtement, je trouve que c'est la meilleure chose qui ait été faite autour de l'univers de Star Wars depuis au moins la première trilogie. Parce qu'on retrouve l'esprit des premiers films. Moi, j'ai retrouvé le kiff que je pouvais avoir quand j'étais gosse, parce que c'est un western dans l'espace. Pour moi, Star Wars, c'est ça. C'est un western dans l'espace, et c'est exactement ça. Et il y a aussi un petit côté film de samouraï. Voilà, il y a beaucoup de séquences et beaucoup de situations, et au niveau de la mise en scène notamment, qui sont des hommages flagrants au western spaghetti, au film de samouraï. Et en plus, la relation qu'il y a entre le héros, le Mandalorian, là, et le bébé Yoda, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans la série de films Baby Cart. Donc, les Baby Cart, c'est des films de samouraïs, donc qui se passent dans le Japon médiéval. Et Baby Cart, c'est quoi ? C'est un chasseur de primes, c'est un ronin qui se balade avec une poussette, et dans la poussette, il y a un bébé. Et donc, son boulot, c'est de protéger ce bébé. Et à chaque épisode, et ben voilà, il va de mission en mission, il tue des gens et il protège le bébé. Donc, vraiment, le Mandalorian, c'est exactement ça, mais dans l'espace. Et il respecte l'esprit Star Wars aussi au niveau des créatures. Il y a beaucoup de créatures animatroniques, donc des créatures très, très, très tangibles, avec de la texture, avec de la matière, quoi. On n'est pas dans le 100% numérique. Et d'ailleurs, ils ont un peu révolutionné le game là pour le tournage de la série, parce que c'est pas fait sur fond vert. Les making-of du Mandalorian sont incroyables. En fait, c'est une technologie très récente. Si tu veux, dans le studio, il y a une espèce d'écran à 360 degrés qui entoure complètement les comédiens, et on projette sur ces écrans des décors. Donc en fait, ils sont réellement, tu vois, dans le décor, quoi. C'est pas comme quand tu tournes sur fond vert où tu sais pas trop ce qui va se passer en post-prod. Là, ils sont dans le décor, ils sont dans un désert, tout ça. Et du coup, le rendu à l'image est exceptionnel. On dirait vraiment qu'ils sont dans les décors naturels. Donc voilà.
Ok. Au cœur. Et ça doit, j'imagine, ouais, que en plus en termes de post-prod, ça doit être beaucoup moins cher, même si ça doit Je pense que
mais c'est clair. Absolument. Vraiment, je conseille aux gens qui connaissent la série mais qui sont jamais allés voir les making-of de les regarder parce que c'est très très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Quand tu regardes les making-of de films ou de séries de science-fiction, tu vois des gens sur fond vert qui parlent à des balles de ping-pong. Là, c'est pas du tout ça, quoi. Ils sont vraiment dans le décor à l'ancienne un peu. Donc c'est assez assez génial, ouais.
Ok, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui fait aussi que ça t'a que cette série t'a marqué particulièrement, en fait, au-delà du fait de revenir à l'essence de Star Wars?
Alors, il se trouve que quand j'ai commencé à voir la série, j'étais pas encore papa, et depuis que la nouvelle saison est sortie, je le suis devenu. Et du coup, le rapport à cette série est très 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 différent parce qu'il y a une identification immédiate. Quand je vois le bébé Yoda, je vois mon fils, et inversement. Et du coup, j'ai vraiment cette projection où je me vois, tu sais, dans le rôle du protecteur, quoi. Donc, du coup, c'est beaucoup plus touchant aussi de voir la série avec ces yeux-là. Quand tu vois le personnage du Mandalorian qui est prêt à traverser la galaxie pour sauver le bébé Yoda, tu ne peux que t'identifier, tu dis oui, je ferais pareil, clairement. Donc voilà, il y a cette dimension-là aussi que je trouve très, très touchante maintenant, encore plus que quand j'ai découvert la série. Et je pense que c'est un peu l'élément central, en fait, vraiment, cette relation entre les deux, là. C'est beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de gunfight et tout ça aussi, hein, beaucoup d'action. Mais il y a cet élément central qui fait que la série plaît à tout le monde, en fait. Ça fonctionne sur tous les publics, sur tous les âges.
Parce que le bébé Yoda se fait kidnapper à chaque fois, c'est ça, dans chaque épisode?
Alors non. Alors, déjà, je ne veux pas trop dire ce qui se passe autour du bébé Yoda, hein. Je ne veux rien spoiler. Mais le bébé Yoda fait l'objet de convoitises, clairement. Donc il faut le protéger. Et je tiens à préciser que, donc, comme je te disais, j'ai jamais été geek de Star Wars. Et ça fait même bien longtemps que j'ai pas été geek d'une série ou d'un film ou de quoi que ce soit, en fait. Quand je dis j'ai pas été geek, ça veut dire ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté de produits dérivés d'un truc. Mais là, laisse-moi te dire que mon petit cadeau de Noël de moi à moi, c'est un bébé Yoda en animatronique qui bouge comme dans la série. Et donc voilà, je vais bientôt le recevoir. Et j'ai vu que Disney a sorti les casques taille adulte, hein. Ça montre bien qu'ils savent à qui ils s'adressent. Taille adulte du Mandalorian. Donc tu peux mettre le casque et à l'intérieur, tu as un cadran électronique et tout comme dans la série. Donc, je pense que je vais clairement craquer. Voilà.
Ok. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on pourra le voir, ce bébé Yoda. Mais est-ce qu'il y a une vidéo que je peux montrer aux gens sur Internet de cette animatronique?
Alors là, franchement, il y a juste à taper Baby Yoda animatronique, okay. Hasbro.
Ok, bouge pas, je vais faire ça. Je vais le montrer.
Okay. Et tu verras. Alors, je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas faire de critique du produit, mais il y a des vidéos où on peut voir que c'est très 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 bien foutu. Adorable.
Alors bouge pas, je montre aux gens, hein. Je te reprends juste allez, après. Allez. Hein. Oui.
Voilà.
Ah non,
mais c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Ah bah en plus il gère la force et tout là.
Ah non mais c'est une folie. Oui, il tend la main comme ça. J'ai qu'une hâte, c'est de confronter mon baby Yoda humain à celui-là pour voir ce qu'il va dire, mais.
Mon baby Yoda humain.
Ouais.
Alors attends.
Hop.
Bon écoute, je connaissais pas, je savais pas qu'ils étaient, ils ont carrément sorti des poupées, donc c'est fort.
En fait, pendant longtemps, il y en a pas eu, et les gens se disaient mais comment ça se fait que Disney ne se gave pas de produits dérivés sur Baby Yoda? C'était juste une question de temps. Là, il a été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables. Il y a des tas de figurines pop, là. Il y en a une géante, d'ailleurs. Il y a des peluches, il y a tout ce que tu veux, mais l'animatronique, c'est quand même le top. Voilà.
Waouh. Mais il y a Shingy dans le chat qui dit « Si tu as ça enfant, tu deviens fou. » Mais je pense que même si tu as ça adulte, tu deviens fou, en fait.
Ah oui, je confirme. Je trépigne à l'idée de le recevoir, tu vois. Donc, j'ai 40 piges, mais je trépigne.
Combien coûte cette merveille? À 60$, apparemment.
Combien tu dis?
$60, là, aux US, là, apparemment.
Ça m'a coûté plus cher, moi. Moi, c'était genre 80. C'est pas non plus par deux prises. Ça coûte pas 500 balles. Mais bon, c'est un petit investissement, quoi.
Mais c'est intéressant, en fait, le regard qui change sur des œuvres culturelles dont tu parlais, en fait, quand tu as commencé, tu ne l'as pas vu de la même façon avant ou après être papa. Qu'est-ce qui a changé en particulier en toi, en fait?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Eh ben, la projection, déjà. Hein, t'es obligé de t'identifier, de te projeter, de dire qu'est-ce que je ferais, moi. Ça me l'a beaucoup fait aussi sur la série This Is Us, qui nous a accompagnés avec ma chérie dans toute la grossesse. Et d'ailleurs, le deuxième prénom de mon fils est lié à un des personnages de cette série. Voilà. Et c'était déjà très émouvant de la regarder avant d'avoir un enfant. Maintenant, ça prend une ampleur. Donc, dans cette série, il y a le personnage de Jack, donc, qui est joué par Milo Ventimiglia, qui est une espèce de père modèle, quoi. C'est vraiment un rôle modèle. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'être à la hauteur de ce personnage, quoi. J'ai envie d'être ce père-là pour mon enfant. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté projection. Et ça marche aussi sur le négatif, dans le sens où il y a des choses qui sont intolérables aujourd'hui, quoi. Je veux dire, par exemple, voir une œuvre de fiction où il y a des violences envers des enfants, c'est déjà insupportable de base. Mais là, maintenant, c'est vraiment très chaud. Donc ouais, le rapport aux œuvres change beaucoup. Ouais.
Je me suis rendu compte, moi, que j'avais perdu un truc qui marchait plus en moi à partir du moment où j'étais devenu papa. C'était, il y avait un gamin qui s'était fait kidnapper il y a quelques années dans le Nord. Et voilà. il avait un prénom... un peu à consonance étrangère, mais vraiment un prénom compliqué à tenir, si tu veux, en France, quoi, en français en tout cas. Et, ouais. Et en fait, Twitter s'était fait un régal de faire des vannes sur le prénom de cet enfant. Et je pense qu'en fait, avant, c'est un truc qui m'aurait fait marrer. Et en fait, après, mais vraiment, j'avais ce truc où, ah non, plus marrant, en fait. Et je me suis moi-même étonné d'avoir perdu ce pan-là, en fait, parce que par empathie en fait, avec les parents, de se dire...
Ouais, je comprends à 100%, parce que tu vois, le fait par exemple d'imaginer qu'on t'enlève ton enfant, bon, quand t'as pas d'enfant, tu peux déjà imaginer que c'est pas cool. mais quand t'en as un, tu peux le ressentir dans tes tripes, quoi. C'est très différent. Tu peux vraiment avoir le feeling. Et ça change tout. Clairement, ça change tout. Tu peux plus rire de ça. C'est pas possible, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est une nouvelle donnée à gérer avec les œuvres. Hein. C'est que, bon, tu peux plus tout voir de la même manière.
Est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres séries qui t'ont marqué, là, depuis la naissance de ton petit?
Alors, ouais, mais bon, pour des raisons différentes, hein, pour le coup, pas par rapport à la filiation, mais comme à peu près tout le monde, j'ai adoré The Queen's Gambit.
Ouais.
Pas si tu l'as vu.
Oui, bien sûr.
Ça joue d'échecs sur Netflix. Et d'ailleurs, ce que je trouve marrant dans cette série, c'est que elle a la structure d'un shonen, donc d'un manga pour ados, parce qu'on a vraiment tous les codes. On a ce personnage qui, donc elle est orpheline, comme la plupart des héros de shonen, et puis elle est entraînée par un mentor. Elle rencontre un mentor qui va lui enseigner son art, et puis ensuite elle va rencontrer des adversaires de plus en plus forts, et ensuite quand elle va se retrouver face au boss final, et ben c'est ses anciens adversaires qui vont devenir ses amis. C'est Dragon Ball.
Ouais, c'est vrai.
C'est vraiment pareil.
Je l'avais pas lu comme ça. Voilà,
t'as toujours un ennemi plus fort, et les anciens ennemis viennent t'aider contre l'ennemi plus fort, et voilà. Et j'ai un pote qui m'a fait part de son interprétation là, il y a deux jours. Je trouvais ça malin. Il m'a dit: j'aime bien imaginer que, en fait, les différents personnages qui gravitent autour de l'héroïne sont un peu comme des pièces d'échecs. Et elle a par exemple deux mecs là qui l'épaulent. Mmh. Et c'est un peu comme si c'était les tours qui viennent l'épauler. Sa mère, on voit beaucoup sa mère, tu sais, dans le truc. C'est un peu comme si c'était sa reine. Et à un moment donné, où elle perd sa mère, donc elle perd un peu sa reine, etc., etc. Et je me suis dit, waouh, bien vu. Donc c'est une série aussi qui est riche en interprétations. Et j'ai trouvé aussi, moi, que... Bah non, je ne peux pas dire, sans spoiler, donc je ne dirai rien de ce que j'allais dire. Mais voilà, c'est une série qui est riche, en tout cas. Je l'ai beaucoup aimé, moi.
Et qu'est-ce qui fait que ça t'a marqué depuis ton bébé? Non, c'est juste, d'une manière générale, cette série t'a marqué.
C'est juste que la série m'a plu, vraiment. Et je trouve que le personnage, j'ai oublié le nom de la comédienne, mais je trouve qu'elle est fantastique, vraiment, dans cette série. Et puis, la mise en scène, la réalisation, il y a une reconstitution assez, assez brillante de l'époque. Donc, il y a un soin apporté au costume, au décor, c'est nickel. Et puis, c'est très bien écrit, quoi. Donc, voilà, vraiment, ça, c'était un gros coup de cœur.
Alors, j'ai un film, si ça t'intéresse, à regarder, le film de la daronnerie.
Ouais.
Je pense que c'est sans doute l'un des films qui m'a foutu le plus dans le seum, comment dire, pour moi, si j'avais vu ce film en n'étant pas papa, tu vois,
ouais.
Je pense que je l'aurais vu de façon très random, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais je pense que le fait d'être papa et d'avoir vu ce film m'a foutu dans un état. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps devant, pour être très clair. C'est un film qui s'appelle okay. The Impossible.
Ouais.
Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un film qui retrace le tsunami dans la en Thaïlande.
En Indonésie.
En Indonésie.
Thaïlande,
pardon.
D'accord.
En Thaïlande. Et en fait, bah, je vais vous mettre la bande annonce si ça vous intéresse. C'est tiré d'une histoire vraie. D'une famille qui s'est retrouvée éclatée comme ça. Le père se retrouve seul avec ses deux plus jeunes enfants, qui sont, je pense, si j'ai bon souvenir, des jumeaux. Et la mère se retrouve à l'autre bout de l'île avec son fils aîné, en sachant que la mère est gravement blessée à la jambe. Et donc, en fait, le fils aîné lui file un coup de main pour survivre, en fait, tout simplement. Et le père se retrouve pris entre le choix de est-ce que je reste avec mes fils en sachant que je ne sais pas si ma femme et mon fils aîné sont encore vivants, ou je laisse mes enfants à des inconnus qui traînent là par hasard, tu vois, en te disant que peut-être tu ne les retrouveras plus jamais, pour aller à la recherche du reste de ma famille.
Wow.
C'est marrant parce que je viens de me rendre compte qu'en fait c'était Ewan McGregor. Alors Ewan McGregor joue le fils. C'est Naomi Watts qui joue la maman et c'est Tom Holland qui joue le fils aîné que je connaissais pas à l'époque en fait, mais qui est devenu ensuite le nouveau Spider-Man, tu sais.
Oui. Et non pas le fils.
Pardon, hein? Tu disais?
Je dis Ewan McGregor qui joue le père.
Le père, oui, pardon.
N'est-ce pas?
Ouais.
D'accord. Je me disais, dis donc.
Il joue le papa.
C'est vraiment le fils. D'accord, il joue le papa, ok.
Je suis désolé, Patrick, tu vas pas voir la bande-annonce, mais je vais la mettre pour les gens parce que je n'ai pas encore réussi à faire cette magie de l'internet qui voudrait que ça pourrait marcher.
Pas de souci.
C'est abandonnant son VF, désolé.
Les garçons, venez voir. Super, hein.
On peut aller se baigner?
Oui, bien sûr, on va aller se baigner.
Allez, venez.
Mika, va le chercher. Allez.
C'est tiré d'une histoire vraie. Et bon voilà, si jamais Patrick es-tu... Ouais, voilà.
Je suis là. Pardon.
T'inquiète. Non, je me disais, Patrick, si tu as l'occasion de le voir, ce film date de 2012. Je pense que c'est l'un des... Je pense que le dilemme dans lequel se retrouve ce mec... est magnifiquement écrit et illustré, je trouve. Voilà.
Bah c'est comme le choix de Sophie, quoi.
Mais tu m'étonnes.
Quel enfer, cette idée-là. Après, moi, je peux pas, tu vois, pour le coup, je peux pas me projeter comme toi. Toi, tu peux te projeter à 100% sur le choix de Sophie. Moi, je peux pas, j'ai qu'un enfant. Je sais pas ce que c'est de devoir choisir entre deux, quoi. Je peux qu'imaginer, mais... Un jour, peut-être, je comprendrai.
C'est tout le bonheur que je te souhaite. c'est marrant parce qu'il y a Kramus sur le chat qui dit qu'il a bossé sur la saison 1, épisode 6. Il a bossé sur des effets spéciaux, quelques lasers, des couteaux qui volent.
Mais énorme! C'est génial! D'accord.
C'est fou, hein.
Mais pourquoi un seul épisode?
Ah ben je ne sais pas, il ne m'en dit pas plus. N'hésite pas à en dire plus, Kramus, dans le chat, parce que vraiment, c'est assez étonnant.
Alors ça, c'est marrant. Bon, on a dit qu'on digressait, hein, donc
vas-y, digresse.
Je saisis l'occasion pour digresser. Il y a peut-être un an de ça, un peu plus, j'avais fait un post Twitter juste pour crier mon amour pour Zelda Breath of the Wild, en disant que, parce qu'en fait, l'année dernière, c'était un peu l'année du bilan de la décennie, quoi. Donc chacun faisait ses tops. Et donc je disais que pour moi, voilà, le jeu, l'œuvre même, tout support confondu, quoi, qui m'avait le plus marqué, c'était sans doute le dernier Zelda que je trouvais extraordinaire. Et là, dans les réponses sur Twitter, il y a un gars qui me dit, eh ben, je suis très flatté parce que je suis Axolotl depuis le début et j'ai travaillé sur le Zelda, quoi. Je dis quoi ? Et donc on s'est retrouvé ensuite en chat privé. Donc c'est un Français qui vit au Japon et qui a bossé sur Zelda et il m'a dit ce qu'il avait fait quoi. Il m'a dit bah par exemple quand tu joues avec les animaux du jeu, quand tu vois par exemple un chien qui se tourne sur le dos, et ben c'est moi qui ai fait l'animation. Et du coup c'était dingue, ensuite de rejouer au jeu en se disant merde, je connais le mec qui a créé ce truc là. Et voilà. Et donc bon là ils sont en train de bosser sur la suite de Breath of the Wild 2. Et évidemment Nintendo c'est très très strict, hein, donc il a un contrat, enfin une clause de confidentialité hardcore. Mais il m'a quand même laissé sous-entendre que ce serait encore plus fou. Donc voilà, j'ai hâte. Mais oui, c'est toujours marrant, en tout cas, ouais, de voilà, rencontrer quelqu'un qui est lié à une œuvre qu'on aime beaucoup, qui connaît les coulisses. Et c'est vrai que quand tu vois la longueur des génériques sur ce genre de super production, tu te dis, oui, après tout, il y a de fortes chances qu'un jour, je rencontre quelqu'un qui a bossé dessus, parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc ouais.
C'est une question de probabilité.
Voilà, exactement.
Écoute, j'ai pas joué à Zelda, Breath of the Wild, mais les gens m'en dit tellement de bien. Bah, j'avais pas trop le temps à l'époque avec Mademoiselle, là. J'ai un peu plus de temps maintenant. J'hésitais à... Tu disais, pardon ?
Non, je dis, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire, quoi. Je pense que... même si on n'est pas spécialement fan de jeux vidéo, rien qu'à regarder, je vois donc ma chérie m'a beaucoup regardé jouer parce que c'est tellement beau, c'est très inspiré de Miyazaki, et c'est un jeu qui est très contemplatif, qui prend un peu à contre-pied toutes les super productions de ce type en monde libre, quoi, tous les jeux bac à sable où tu fais un peu ce que tu veux dans le monde. Là, on est vraiment dans un jeu qui prend son temps, qui est très contemplatif. Tu peux rester 10 minutes posé, tu sais, dans une montagne à regarder le vent qui passe dans les airs. Enfin, c'est belle. Et puis la musique aussi, il y a un travail sur les sons. C'est l'univers en lui-même qui t'appelle à lui. Et contrairement à un GTA, par exemple, où en général on y joue pour remplir les missions, pour être dans l'action, etc. Et où finalement le monde n'est qu'un décor, on va dire. C'est comme un décor de film pour encadrer l'action. Et ben là, ce monde est vivant. On y croit. T'as juste envie de l'explorer, de te balader. En plus, il y a une faune qui est hyper riche. Donc si tu veux, tu peux passer ton temps juste à chercher les animaux. Et à prendre en photo, t'as un appareil photo, tu peux photographier les espèces et t'as une espèce de, comme un Pokédex, quoi, comme une encyclopédie, et tu remplis les pages avec tes propres photos et il n'y a pas deux papillons identiques. Toi, tu prends un papillon en photo et on te dit c'est telle espèce, t'en prends un autre, c'est telle espèce. Donc voilà, rien que ça, c'est pour te donner une vague idée de la richesse de ce jeu qui est extraordinaire, quoi.
T'as passé combien d'heures dessus ?
Ouf, franchement, je pourrais pas les compter. Mais pour tout avouer, le jeu, je l'ai depuis 3 ans, il est sorti en 2017, et je l'avais pas fini jusqu'à il y a 3 mois. Parce que j'avais pas envie de le terminer, ce jeu, quoi. J'avais envie qu'il reste ouvert en permanence. Et là, il y a 3 mois, je l'ai fini parce que je me dis quand même, c'est sûrement mon jeu préféré de tous les temps. C'est quand même dommage de pas l'avoir bouclé. Donc je l'ai fait. Mais c'est un jeu que tu as envie de laisser ouvert, quoi, de pouvoir y retourner tout le temps. C'est comme il y a un petit côté cocon et doudou, quoi. Tu vois, juste tu te balades et c'est trop bien. Donc voilà.
Je crois que tu m'as convaincu.
Mais t'as la Switch ?
Ouais, ouais.
Ah bon, voilà. Ah. C'est obligatoire, quoi, vraiment.
Ouais, je sais, mais tu sais, j'avais un peu peur de me dire je vais l'acheter et en fait j'ai pas forcément de temps à y consacrer, de ce fait là c'est un peu frustrant, mais c'est vrai que j'ai du temps maintenant, donc pourquoi pas après tout.
Mais même, je veux dire, j'étais dans le même cas quand je l'ai eu, ce jeu là j'avais pas forcément le temps de m'y consacrer pleinement, mais c'est encore mieux, genre tu joues, j'en sais rien moi, tu joues 2 heures par-ci, 1 heure par-là, et du coup le jeu dur. Et tu peux y passer des années dessus, quoi. T'as toujours des choses à découvrir. Même là, je l'ai fini, mais j'ai pas découvert sans doute le quart de tout ce qu'il y a à découvrir, quoi. C'est extraordinaire.
Trop bien. Écoute, tu m'as eu. Je crois que.
J'ai hâte vraiment d'avoir. Je pense que tu vas me dire, putain, incroyable. J'y passe des nuits. C'est Navo, l'ami Navo, qui était extrêmement fan. Ah, ça, c'est marrant, ça d'ailleurs. Ça me fait penser à un truc. On s'était parlé du jeu. Il me semble que c'était dans un truc du genre Nuit Originale ou quoi. On s'était parlé du jeu. Et il me dit, ouais, je suis super fan, j'ai tout trouvé, machin, truc. Et je lui parle d'un lieu. Je dis, et tu connais ce truc? Et il se trouve qu'il ne l'avait pas vu. Donc c'est vraiment ça la richesse de ce jeu, quoi. C'est même quand tu crois que tu l'as retourné, il y a toujours des petites choses. Il y a un travail. C'est exceptionnel. Donc voilà, tu me diras.
C'est noté. Il y a Kramus qui dit qu'il a bossé sur... Alors oui, qui les a aidés quelques jours, qui bossait sur Lost in Space, sinon. Lost in Space, c'est le dessin animé sur Netflix, non, c'est ça, je crois. Peut-être pas, j'en sais rien.
Ah, je sais pas.
Il est à Vancouver et aujourd'hui, il bosse sur une série avec un monsieur avec une cape rouge, mais chut, je n'ai pas le droit d'en dire plus.
Oh, ça veut dire qu'il va y avoir une série Superman.
C'est pas lui qui nous l'a dit.
Oh là là, génial! Attends, tapons série Superman dans Google pour voir s'il y a des annonces.
Que se passe-t-il dans Google? Ce sera pas toi qui nous l'a dit.
Superman
hein.
Et Lois.
Ah!
Superman et Lois, série TV 2021. Donc c'est là-dessus que travaille notre ami Crampus.
Il y a Koneko qui dit, ou alors sinon c'est Doctor Strange. Pas bête, je l'avais pas.
Ah! Ouais. Pas faux, pas faux. En tout cas, au passage, on a appris qu'il y a une série Superman qui sort en 2021.
Ah oui, c'est ça, il reboot Superman.
Lois et Clark.
Lois et Clark, oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Il fait du compositing, il remplace les fonds verts, il intègre de la 3D à des plans. Ok, ouais. Bon, tu fais le...
Est-ce qu'il peut nous parler davantage de ce que je disais tout à l'heure, la technologie là, des écrans réels? Parce que j'ai pas le nom déjà. Est-ce qu'il y a un nom de ce truc?
On va l'attendre. Kramus, tout le monde t'attend.
Oui.
Vive Internet.
Le truc qui va changer le game. Hein. Je pense que tout le monde va s'y mettre là. Tellement ça a l'air pratique.
Oui, mais puis surtout, ça doit permettre dans un format série qui, à mon avis, doit être. Produire rapidement, ça doit permettre de pouvoir avoir une forme de liberté, quoi.
Et ben dans les making-of, ils expliquent que pour le réel, notamment, c'est génial, parce qu'il peut tout de suite voir à quoi ça va ressembler. Ouais, il n'a pas à anticiper sur ce qui sera mis incrusté dans le fond vert. Il peut voir tout de suite si ça marche ou pas. Et en plus. Il y a certains environnements, c'est des environnements 3D, et ils peuvent changer à volonté, par exemple, la météo, l'heure du jour et de la nuit. Donc le réel peut dire mettez-moi un peu moins de soleil couchant là, machin, et c'est immédiat. C'est vraiment fou, quoi, à voir.
Waouh!
Très impressionnant.
Koneko qui dit ça va être contraignant pour les angles de vue. Mais je pense pas si ça entoure.
Ils peuvent faire tourner le décor, tu vois, ça entoure complètement et ils peuvent faire tourner à volonté les images. Donc, je pense qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein.
Ouais. Et il y a Swok sur le chat. Vraiment. Hello, copain de compo. Coucou de Montréal où je fais aussi du compositing. Mais vraiment, on a la commu du compositing sur le chat.
Ça alors.
Ce soir.
Et il a bossé sur quoi?
Sur quoi t'as bossé?
Sur quoi tu bossais?
Swok. C'est fou, hein, quand même.
Quelque chose qu'on connaît.
Bah ouais. Alors régulièrement, on a... mais là, je pense pas qu'il soit là ce soir, mais il y a Winnie aussi qui travaille sur... qui est spécialiste en effets spéciaux sur les poils et les vêtements. Il a notamment travaillé, je sais pas si tu avais vu ces films DreamWorks, je pense, comme des bêtes, tu sais, avec des animaux.
Ah oui, oui, d'accord. D'accord, oh, ça doit être une galère, ça, de bosser sur les poils, là. Ah ouais, il y a tellement de millions de poils à gérer. Ça va être beaucoup plus contraignant que ce qu'on pense.
Charles, tu dis par contre cela nécessite une grande préparation en pré-production, j'imagine, mais est-ce que tu dis ça parce que tu as aussi bossé dessus ou alors vraiment que se passe-t-il? tous les gens qui ont bossé sur Mandalorian sur le chat. J'ai bossé sur Astérix et Obélix, donc là c'est Smoke. J'ai bossé sur Astérix et Obélix, Bob l'éponge qui vient de sortir sur Netflix. Ah oui, le dessin animé qui est très cool. Ok. Où il y a des parties en 3D. Je ne connais pas le terme, mais qui sont de la 3D un peu classe quoi. Bon, en tout cas, c'est dites donc. Bon, Kramus n'est pas là. Ou maybe. Bon, en tout cas. Je vais te libérer, Patrick. Merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir. Merci à toi. C'était très cool.
C'était trop bien. Ça s'appelle un Virtual Set. Les technos.
D'accord.
Est à base d'un moteur de jeu vidéo. Voilà.
Et oui, parce que c'est des décors 3D. C'est pas des vraies images. Trop bien.
Ok. Bon, bah voilà. Tu sais désormais, si tu tapes Virtual Set, machin, peut-être tu vas trouver.
Eh ben nickel, on va faire ça.
Pour assouvir tes curiosités.
Je vais faire ça de ce pas. Eh ben merci beaucoup.
Merci à toi Patrick, c'était vraiment cool. Je te souhaite un bon appétit, des belles fêtes de fin d'année.
Aussi.
Un bisou au bébé qui doit sentir le bébé, ça c'est trop classe.
Oh là là, ça c'est ma nouvelle drogue, j'avoue. Tout à fait.
Profites-en parce qu'après ça devient adolescent et moi mes filles elles sont à l'âge où elles commencent à en avoir marre que je les bisouille quoi, tu vois, donc
voilà, j'en profite là vraiment, c'est ma drogue.
N'hésite pas
à tous les gens du chat, à tous les gens qui font du compositing,
voilà. Les compositos, on va les appeler,
voilà, exactement. Et puis à très bientôt.
Merci beaucoup Patrick, à très bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.